Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial No Code Summit. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de participer à cet événement et je vous fais profiter d'un format Inside pour plonger dans les coulisses de cet événement. Pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, je m'appelle Guillaume Comagnac. Je suis associé du studio d'innovation Tracteur qui accompagne des startups tech qui se situent entre le démarrage et la série A, de la vision jusqu'au lancement, en passant par le développement, que ce soit en code ou en no-code. C'est grâce à Tracteur que le projet Open Startup, les événements de portes ouvertes comme le podcast, existent. Et aujourd'hui, je vous propose 6 courtes interviews pour aborder les thèmes du no-code et de l'intelligence artificielle en direct du no-code summit. Je vous laisse maintenant avec le Guillaume du passé qui, tel un reporter de terrain, va vous faire rencontrer quelques acteurs de cet événement. Bonne écoute! Allez, c'est parti. Me voilà à Paris pour ce No Code Summit. Je viens d'arriver à Station F. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Station F, ça se revendique comme le plus gros incubateur du monde. C'est une immense fourmilière. J'ai fait mes petites recherches et c'est 34 000 m² qui accueille près de 900 startups, je crois. Voilà, fondée par Xavier Niel, c'est aujourd'hui une place assez incontournable de la tech en France. Il y a ici plein de gros acteurs hein, qu'on connaît, les GAFAM, la French Tech. Voilà, quand il y a des gros événements tech en France, à Paris, souvent Station F est pas loin. Alors pourquoi je suis là ? Je suis ici pour participer à la seconde édition du No Code Summit. C'est un événement majeur sur le sujet. Ça dure 2 jours. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour participer. On retrouve des professionnels du no-code, low-code, évidemment, des éditeurs, distributeurs d'outils et plein de personnes très différentes en tant que participants, des freelances, des entrepreneurs, des makers, des professionnels de tout secteur utilisant ces technos. Le programme est bien dense, il y a 7 scènes, plus de 100 conférences et speakers, de nombreux exposants. Je vais organiser un petit peu ma journée parce que il y a plusieurs choses qui m'intéressent et puis surtout je vais essayer de nous avoir quelques personnes clés de cet événement. Je reprends le micro là, j'ai commencé ma journée par une balade dans les différents stands et j'ai discuté avec pas mal de participants. J'ai malheureusement loupé une conférence sur la normalisation et la structuration de l'industrie no-code avec notamment l'AFNOR et le SFPN, le syndicat français des professionnels du no-code. Oui, oui, ça existe, il y a un syndicat qui travaille sur ce sujet auprès du gouvernement afin d'acquérir une véritable reconnaissance côté formation et métier et travailler sur une certification pour les développeurs no-code. Il y aura apparemment des replays, donc j'essaierai de vous retrouver ça. Et en parlant du SFPN, il se trouve que c'est l'organisation en charge du No Code Summit, et je vous invite pour débuter à écouter Pierre Launay, son président. En compagnie de Pierre Launay. Pierre, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, moi je m'appelle Pierre, du coup je suis le président du syndicat français des professionnels du no-code et CEO du groupe Cube, historiquement une agence de développement no-code et plus récemment une école de formation à no-code.
Tu l'as dit, le syndicat français des professionnels du no-code, c'est en partie, c'est l'organisateur de cet événement, le No-Code Summit. Est-ce que tu peux nous en parler ? Quelle a été l'idée derrière ? C'est la deuxième édition. Raconte-nous.
Alors, en effet, c'est la grande action du SFPN cette année. On avait fait la première édition l'année dernière. Le syndicat est assez jeune, très dynamique, mais très jeune, parce qu'il a à peine 2 ans. L'année dernière, très gros succès autour du la première édition du No-Code Summit qu'on avait fait au Cloud Business Center à Paris. Cette année, on a voulu que ça soit plus grand et on a presque fait plus que le double de toutes les KPI en termes de monde. On va dépasser les 2500 participants. On a presque 200 speakers, alors qu'on en avait qu'une centaine l'année dernière. Le nombre de conférences aussi a augmenté. Enfin, vraiment, pour le coup, c'était l'idée de faire un événement ambitieux qui est vraiment de l'ampleur pour pouvoir communiquer fortement, parce que c'est la mission fondamentale du SFPN de créer des moments de réseau, d'échange où l'ensemble des acteurs puissent se connecter et créer des opportunités business.
Il y a un thème qui a été défini cette année qui est assez obvious, l'intelligence artificielle. Comment toi, en tant que Pierre, et puis globalement les discussions aussi que vous avez avec, avec le syndicat, vous percevez l'intégration, l'implémentation des IA dans les outils no-code et dans cette sphère-là?
Alors il y a le thème, il a été choisi principalement parce qu'il y a une conjugaison quasi naturelle entre le no-code et l'IA. Alors nous, on est vraiment sur le focus des IA génératives, OpenAI et ChatGPT en particulier. On pourrait même dire que ChatGPT est un outil no-code. À partir du moment où on va générer de la donnée, on va commencer à la structurer, on est en train de commencer à faire une solution digitale comme de la même manière qu'on développerait une application, des automatisations et tout ce type de cas d'usage. Donc ça nous a paru assez évident de le mettre en avant, sachant que tous les éditeurs, la grande majorité des éditeurs de code ont intégré nativement ChatGPT et les IA dans leur engine. Et donc clairement, ça a permis à beaucoup d'entre eux de pouvoir montrer justement ce qu'ils faisaient sur l'IA pendant le No-Code Summit. Et c'était le meilleur moment pour faire un point d'actualité sur le sujet.
Comment vous envisagez le futur du no-code, low-code? Parce qu'on le voit là, ça ne fait que s'accélérer. J'ai découvert encore moi plein de nouveaux acteurs que je ne connaissais pas aujourd'hui. On voit des nouveaux usages, use case. Il y a aussi des personnes dans des secteurs d'activité très différents. Comment vous percevez là, le futur?
Alors en effet, c'est vrai qu'il y a un effet début et émergent, mais il y a quand même une réelle un vrai mouvement de fond. Là au niveau du SFPN, on est 46 entreprises regroupées, mais le fait qu'on ait réussi à avoir 1200 participants l'année dernière, plus de 2500 participants au No-Code Summit cette année, il y a vraiment beaucoup d'acteurs et beaucoup de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, des plus vieux métiers aussi qui sont en train de se mettre au No-Code, les agences, les organismes de formation, les freelances, les éditeurs. Et donc avec plus de 900 outils référencés dans le monde, il y en a un qui naît et qui meurt tous les jours. Donc on est encore dans cette phase-là, vraiment d'émergence, d'explosion. Et donc je pense que les 2-3 prochaines années vont être intéressantes en termes de structuration du marché, justement. Le SFPN travaille sur des sujets de fond, comme la reconnaissance de nouveaux métiers, comme le développeur no-code. On lance un chantier avec l'AFNOR de normalisation, où on va driver ce chantier-là pour essayer de faire rentrer le no-code dans un cadre réglementaire qui permette justement de parler la même langue avec les grandes entreprises sur des sujets très importants comme la donnée, la scalabilité et la sécurité surtout des données. Donc on est dans cette phase, on sort un peu de la phase émergente et on rentre un peu dans la phase de structuration, selon moi.
Ok. Moi j'ai un podcast qui s'appelle Open Startup, donc avec une audience d'entrepreneurs, de gens qui travaillent dans l'innovation numérique. Quel regard tu portes sur ces outils-là, sur la capacité à créer des nouvelles solutions, en tout cas ça fait passer tout un tas de projets dans une autre dimension?
Oui, tout à fait. Et puis surtout, ça permet à plein de gens qui faisaient pas de tech hier d'en faire aujourd'hui. Et c'est surtout ça, en fait, je pense, la très grande innovation de ce que permet le no-code, c'est de s'adresser à des gens qui avaient une très forte dépendance envers les équipes tech jusqu'à aujourd'hui. Alors, no-code ne veut pas dire no expertise. C'est pas accessible en 1 minute et 30 secondes. Ça demande du temps pour maîtriser les notions fondamentales, parce qu'il n'y a pas de révolution sur la manière de développer. Il y a des bases de données, il y a du front, il y a du back, il y a des API, et donc tout ça, c'est des notions techniques qu'il faut maîtriser. Mais à partir du moment où ces notions-là sont maîtrisées, l'accessibilité aux outils est beaucoup plus forte et ça permet à plein d'entrepreneurs de concrétiser leurs idées et d'avoir moins d'asymétrie d'informations aussi avec leurs propres équipes tech ou des agences avec qui ils pourraient travailler pour comprendre ce qui se passe. Et l'entrepreneur, il a besoin de comprendre ce qui se passe, pas forcément faire lui-même, mais comprendre ce qui se passe. Donc je pense que c'est le gros changement qu'il y a grâce de code, et l'IA, n'en parlons pas.
Une anecdote, une petite histoire sur l'organisation de ce No-Code Summit, que ce soit durant la préparation ou là, durant les heures passées en live, que tu pourrais nous partager.
C'est la nuit, la veille de l'événement, il y a eu des travaux d'urgence sur le toit. Du coup, on a dû retirer la moitié des stands et les remettre, voilà. Donc ça a été un moment un peu chaud, mais du coup, tout était en place à 9h, donc c'était parfait.
Merci Pierre. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus prolongé, il y a évidemment le site du No Code Summit où seront proposés un certain nombre de replays des conférences. Sinon, où est-ce qu'on peut envoyer les gens pour en savoir plus?
Alors voilà, le site du No Code Summit où il y aura tous les replays de toutes les conférences, notre page LinkedIn aussi où on va vraiment connecter tous les différents canaux. On est sur YouTube, on est sur Twitter, sur Facebook. Il y a le site du SFPN également. Voilà, ça fait pas mal de canaux déjà.
Merci Pierre. Bon No Code Summit.
Merci beaucoup.
Alors, j'ai poursuivi ma matinée avec la conférence de Myrène Lafourcade, User Don't Want No Code But Features. Les utilisateurs ne veulent pas de no code mais des fonctionnalités. J'ai vraiment apprécié cet état d'esprit et c'est pourquoi j'ai voulu l'interroger, donc je vous propose de l'écouter. Bonjour Myrène, est-ce que tu peux te présenter pour débuter ?
Bonjour, je suis Myrène Lafourcade, je suis cofondatrice et directrice générale de CIMAX. CIMAX qui est un ERP CRM 100% no code.
Ça y est, tu viens de dire les mots, le mot ERP qu'on entendait moins peut-être dans la sphère no code classique. CIMAX, c'est pas une entreprise naissante comme on en a beaucoup là sur les stands. Vous êtes là et vous faites du no-code alors même qu'à une époque on n'appelait même pas ça no-code.
Oui, parce qu'en fait on est né en 2006, donc nous on est une ancienne start-up et en fait en 2006 on faisait du no-code. Bon, ça, du coup on parlait de faire des logiciels de gestion sans programmer. Donc en résumé, personne comprenait ce qu'on voulait faire, personne n'y croyait à l'époque. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une solution de gestion avec notre no-code et qui était capable de gérer tout depuis la gestion de la relation client jusqu'à la compta en passant par les stocks, les achats, les ventes. Et du coup c'est comme ça qu'on a survécu en tant que start-up avant que la vague no code arrive et que tout le monde dise ah que c'est ce qu'on voulait faire, c'était vachement bien.
Ta conférence à laquelle j'ai assisté s'appelait Les utilisateurs ne veulent pas du no code mais des fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous en présenter un peu les grands contours, les grands principes?
En fait, justement, c'est le retour d'expérience que j'ai sur mes 17 ans de no-code. C'est qu'à la base, le no-code, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est un moyen pour une finalité. Et la finalité, ça doit rester le besoin de l'utilisateur. Qu'est-ce que veut l'entreprise et du coup, il faut délivrer quelque chose qui répond à son besoin, qui résout ses problèmes. Et effectivement, le no-code est un moyen, mais il y en a d'autres. On est toujours en compétition avec du code. Donc, du coup, il faut toujours avoir ça en tête, c'est hyper important.
Quel regard tu portes justement? Moi, j'ai le sentiment qu'il y avait longtemps un gap entre no code et code. Maintenant, il y a plus un overlap, un chevauchement où des fois on a des arbitrages qui peuvent être plutôt en faveur du no code pour un use case précis ou finalement du code. C'est quoi ton regard sur ces dernières années, sur le développement, le niveau de maturité aussi de ces outils-là?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui sont jeunes. Donc, du coup, ils n'ont pas forcément beaucoup d'exemples et puis ils ont besoin de maturer encore un peu. Donc effectivement, il faut essayer quand on prend un outil, il faut regarder quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Mais il faut rappeler aussi que le code, c'est pas illimité non plus. Ne serait-ce que parce qu'on est limité par le temps et le budget. Donc il faut regarder tous ces différents aspects pour choisir le bon outil. Mais il y a aussi un peu de no code, low code. Code washing et aussi un peu des gens qui font du code et qui disent oui on est low code et ça m'énerve un peu. Genre j'étais à une conférence l'autre jour, il y avait quelqu'un qui disait oui on fait du no code parce que on a des colonnes qui sont réservées dans la base de données pour rajouter des champs librement. Ça c'est pas du no code, c'est pas du low code, c'est de l'informatique à la papa ça. Voilà.
Ok. Chez CIMAX, tu travailles vous plutôt avec des grands groupes ou des entreprises industrielles plus classiques, on va dire, pas forcément avec des startups qui sont peut-être à l'affût de ces outils-là. Comment vous faites parfois? Est-ce qu'il y a des réticences sur l'outil en lui-même? Est-ce que le mot no-code fait peur encore? Et puis, du coup, si c'est le cas, comment vous levez ces barrières-là?
je pense qu'en fait, pour lever la barrière, il y a un élément qui est déterminant, c'est qu'aujourd'hui, il faut que tout aille beaucoup plus vite. On se rend compte que les entreprises, elles doivent se digitaliser, vite, elles doivent bouger plus vite, et donc le no-code est un bon moyen d'être dans le time to market et justement de lever la barrière. Donc il y a une espèce de prise de conscience qui est en train de se faire autour de ça. L'année dernière, les gens ils disaient, c'est quoi le no-code ? Cette année, ils disent, ok, le no-code, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Je pense que l'année prochaine, c'est le no-code, je sais ce que c'est et c'est ce que je veux. Et donc, ça va changer fortement la donne et ça va la changer très, très vite. Donc les barrières, elles vont se lever, elles sont en train de se lever très, très fortement.
Comment tu perçois du coup l'avenir ? Parce que c'est un peu la suite logique là, de la réponse que tu viens de me faire. Maintenant que les gens vont savoir et qu'ils veulent vraiment du no-code, est-ce qu'il va y avoir une explosion dans tous les secteurs d'activité ? Il y a aussi le thème là, de l'intelligence artificielle qui est un peu en transverse sur ce sujet-là. Comment tu vois l'avenir ?
Alors déjà, moi je pense que l'avenir il est no-code et Gartner est d'accord avec moi puisqu'ils ont dit qu'il y a d'ici 2025, d'après eux, 70% des nouvelles applications et des nouveaux systèmes digitaux qui seront mis en place seront no-code ou low-code. Donc il va y avoir une énorme vague et c'est hyper important pour tous les éditeurs, on va dire traditionnels, d'anticiper, d'envisager de se réécrire ou des choses comme ça. Parce que ça va fortement changer la donne très, très, très vite.
Il y avait un sujet autour de la sécurité, de l'ergonomie aussi durant ta conférence. Est-ce que tu peux nous en parler aussi ? J'ai l'impression que c'est des sujets qui tiennent aussi à cœur, en tout cas qui vous tiennent à cœur chez Simax.
Nous, en fait, comme on fait de l'ERP, de la CRM, en fait, on a toutes les données de l'entreprise. Donc la sécurité, elle est au cœur des préoccupations. C'est hyper important que ces données, ben, elles restent là et elles restent bien là et que tout le monde n'ait pas les droits d'accès. Et c'est vrai que dans les solutions no-code qui sont un peu jeunes, des fois, c'est des aspects qu'ils n'ont pas encore assez anticipés, ils ne sont pas compatibles avec SSO ou d'autres choses comme ça. Donc, c'est hyper important que rapidement, ces solutions, elles se dotent de systèmes de gestion des accès et de sécurité parce que c'est essentiel et parce qu'aussi, on vit dans un monde qui est de plus en plus dangereux en termes de hacking et de piratage et tout ça.
Un mot sur ton expérience au No Code Summit, deuxième édition.
Juste un. Moi, je dirais que c'est très encourageant. Ça fait plaisir de se dire que ben qu'on a eu raison il y a longtemps et que ça se confirme et que ça va dans le bon sens parce que moi, je crois vraiment à la vertu du no-code, pas seulement pour les entreprises, pour le gain de performance, mais aussi humainement pour tout ce que ça permet en termes de reconversion dans le digital, de féminisation des équipes, de reconversion des seniors, etc.
Merci de m'avoir accordé quelques mots au micro pour les personnes qui veulent en savoir plus, j'imagine ton LinkedIn et puis le site de Simax.
Voilà, donc Myrène Lafourcade et www.simax.fr.
Merci Myrène. Je me suis dépêché de déjeuner car je voulais pas rater la première diffusion du documentaire Révolution No Code, réalisé par Stanislas Verjuli-Franc. Un film documentaire que je vous recommande. Ce qu'a réussi Stan, c'est le fait d'humaniser énormément, parce que le récit il est basé sur des témoignages. On a des portraits, des profils très différents à l'image. Moi, j'ai beaucoup aimé et c'est certain que je vais en parler à pas mal de curieux qui veulent en savoir plus. Et vu que j'ai bien aimé, j'ai réussi à avoir quelques minutes avec le réalisateur pour qu'il vous en parle directement. Je suis avec Stanislas. Stanislas, est-ce que tu peux te présenter ?
Ouais, je m'appelle Stanislas Verjus, je suis membre de la communauté No Code France et j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Révolution No Code, qui explore le No Code et les gens qui le font.
Et tu parles vite. Pourquoi faire ce documentaire ?
L'envie derrière le doc, c'était de venir aider à démocratiser le no-code en créant un film qui vient raconter les personnes qui font le no-code, qui le démocratisent, qui créent les outils, et en racontant vraiment des récits humains. Le but, c'était vraiment, en transparence, de pouvoir présenter des profils, de montrer comment le no-code a pu changer la vie de certaines personnes, comment il y a eu un impact, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2023, d'être no-codeur, pour inspirer les gens à venir faire du no-code, à découvrir ça, et pour offrir une introduction à son monde via les histoires humaines de personnes qui le font.
Tu as justement une histoire particulière. Alors, je sais que c'est une question horrible, parce qu'il faut en choisir une parmi toutes, mais tu as une histoire en particulier que tu pourrais nous donner pour illustrer aussi ce changement de vie que ça peut apporter.
Ouais, totalement. Bah, l'histoire que je trouve assez intéressante et qui est un peu pas forcément la plus marquante, parce qu'elles sont toutes, je ferai pas de classement, on va dire, des histoires, mais je pense que l'histoire de Lilian, elle est intéressante parce qu'il a fait beaucoup de petits boulots, vendeur de pizza, il a fait de la vente et il a découvert le no-code et grâce à ça, il a développé plein de compétences et est devenu très bon sur des outils comme Makewearetable et il est devenu, enfin, il a commencé à gagner bien sa vie, à pouvoir se développer personnellement, à rencontrer des amis, à devenir propriétaire. Il en parle dans le doc. Et ça, je trouve que c'est une histoire assez inspirante sur le côté entrepreneuriat, mais il y a des gens aussi qui ont cherché à se comprendre, à se découvrir, à lancer les outils. Il y a Marie et Philippe de Tally que j'aime beaucoup, qui ont aussi bootstrappé un outil Tally où ils sont montés là jusqu'à 70K de MRR par mois à deux. Donc voilà, je trouve qu'il y a plein d'histoires assez inspirantes. Tout dépend en fait de ce qui nous inspire. Est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est la réussite personnelle, est-ce que c'est la famille. Toutes les histoires sont bonnes et un petit panel de ça dans le documentaire.
Tu as pris un parti pris un petit peu au travers du documentaire, c'est de montrer aussi la communauté No Code France. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette communauté-là ?
C'est une communauté absolument incroyable. No Code France, c'est un Slack où les gens, donc c'est un espace de messagerie, on peut appeler ça un espace de forum, où les gens se rejoignent pour venir discuter du no-code. Il y a des podcasts, il y a un live Twitch, il y a plein de personnes. Aujourd'hui, ça fédère, entre guillemets, on va dire en vanity métrique, 12 000 personnes, enfin plus de 12 000 personnes. Et voilà, c'est une communauté de gens hyper bienveillants et bienveillantes, qui est assez unique parce qu'il n'y a pas d'autres communautés de no-code dans le monde comme celle-ci, en tout cas sous cette forme. Et donc c'est une communauté absolument incroyable et moi ça fait 3 ans que maintenant j'en fais partie, voire 4, et j'en suis très heureux, je suis très content de l'avoir se développer et surtout de, c'est un travail collectif et de voir des gens s'en emparer, travailler dessus, l'améliorer, la modifier, enfin c'est une belle histoire.
Le documentaire s'appelle No Code Révolution ou Révolution No Code, donc ça sous-tend que ça bouscule, ça bouleverse les règles du jeu. En quoi ça les bouleverse ? Dis-nous tout.
Bah, je pense que ce qui est intéressant avec le No Code et ce qui est dit dans le doc, c'est que ça vient rebalancer un peu les cartes sur table de qui peut faire des choses sur Internet, qui peut maîtriser les choses sur Internet et qui peut comprendre Internet. Aujourd'hui, avant, on va dire, où le web était réservé, entre guillemets, à des développeurs ou des développeuses, à ceux qui avaient des connaissances techniques du code. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et des personnes qui vont se motiver à se former sur les outils, à les apprendre, peuvent commencer à créer, peuvent venir comprendre comment fonctionne Internet et peuvent commencer vraiment à redéfinir les rôles, on va dire, de création et à venir ajouter une couche intermédiaire, on va dire, entre les développeurs et les développeuses et les gens qui ne sont pas forcément d'appétence avec Internet. Donc, je trouve que cette révolution, elle est assez intéressante sur le fait de se sentir capable de faire des choses et notamment de créer sur les internets et plus de se dire bah j'ai une idée mais je peux pas faire mon site parce que je sais pas coder. Bah, aujourd'hui tu peux le faire, c'est pas magique, ça prendra pas 2 minutes, ça va être de l'apprentissage, mais c'est comme le ski, c'est comme la cuisine, on ne devient pas chef ou skieur prend 2 minutes, on fait pas du no-code en 2 minutes, il faut se former, mais aujourd'hui en tout cas c'est plus accessible que le code et ça te permet de pouvoir lancer les choses si t'as envie de le faire.
Avant que je te relâche pour la deuxième projection du documentaire, t'aimes bien appeler ça un film, bon on va dire film. Est-ce que où est-ce que justement on va pouvoir le retrouver et est-ce que ça t'a donné envie de poursuivre l'histoire, poursuivre le récit sur d'autres choses ? Raconte-nous peut-être l'avenir de comment va vivre parce qu'il y a la première vie de réalisation et là il y a la deuxième vie de projection et autres.
Le film il sera disponible gratuitement sur YouTube. J'ai eu beaucoup de réflexions, beaucoup de gens m'ont dit tu devrais le vendre, tu devrais le garder, etc. Et en fait, ça a été un film qui a été financé participativement. C'est un premier beau projet et à mon sens, c'est le plus important qu'il soit vu par le plus grand nombre. Donc c'est pour ça que pour moi, YouTube est une source bien parce que n'importe qui peut tomber dessus, même par les recommandations ou découvrir le no-code. Et là, je travaille sur un deuxième épisode qui est pas vraiment un deuxième épisode, qui est plutôt une deuxième approche qui serait plutôt basée sur les États-Unis et avec un récit un peu différent. Qui serait du coup d'aller à la rencontre de personnes et de suivre ma déambulation à la rencontre de personnes qui font du no-code. Et donc là, c'est en phase d'écriture. Après, il va falloir que je trouve des financements, des choses comme ça. Donc c'est un plus gros projet qui aura un récit totalement différent et un parti pris totalement différent. Mais ça m'intéresse aussi d'explorer différentes manières d'exprimer le no-code et de le raconter.
Donc les personnes qui veulent en savoir plus et suivre l'aventure, ils te retrouvent où sur LinkedIn ?
Sur LinkedIn, ouais, Stanislas Verjus Franc ou sur Twitter, Stan Verjus, je crois. Vous tapez Stanislas Verjus No Code et vous trouverez les normalement le CEO est pas trop mal. Vous me trouverez et puis on peut en discuter avec plaisir.
Merci Stanislas.
Merci beaucoup à toi pour l'invitation.
Parmi les stars du documentaire de Stanislas, il y a Joyce Kettering qui travaille chez WeWeb. Et si vous écoutez ce podcast assidûment, j'avais eu le plaisir de rencontrer Joyce lors du Web Today à Nantes où j'avais fait un format un petit peu similaire sur l'événement à interviewer plusieurs personnalités. Donc vous pouvez le retrouver. Et WeWeb, ça fait clairement partie des outils qui connaissent une très forte traction ces dernières années et qui sont de plus en plus visibles dans l'écosystème no-code, même si ça fait un peu plus partie de la famille low-code que no-code. En tout cas, c'est un outil que moi, j'apprécie beaucoup, qu'on utilise chez Tracteur. Leur équipe est top, elle est hyper disponible, sympathique et voilà. Et c'est d'ailleurs le CEO, Raphaël, que je poursuis mon cycle d'interview. Donc, je vous propose de l'écouter maintenant. Je suis avec Raphaël. Raphaël, est-ce que tu peux te présenter ?
Bien sûr, bonjour tout le monde. Moi, je suis Raphaël Goldstein, le CEO de WeWeb.io, qui est un no-code front-end builder.
On est entouré de là au No-Code Summit de startups américaines ou étrangères. On a les poids lourds du genre là, les Airtable, Make, Bubble, etc. Vous êtes une startup plutôt française, même si vous avez attaqué le marché tout de suite global en anglophone. Raconte-nous comment on arrive à se faire une place, à se démarquer quand on est encore jeune. Hein,
Ouais, en fait, donc moi, WeWeb s'est créé en 2018, donc ça fait quand même quelques années. Mais effectivement, je pense que le WeWeb que tout le monde connaît actuellement, c'est plutôt à partir de 2021. Au départ, nous, on était un constructeur de sites web. Et je vais raconter un peu notre histoire, parce que ça va répondre à ta question. On était un constructeur de sites web pour découpler. Donc en fait, pour tous les gens qui utilisaient un headless CMS, on s'est dit qu'ils avaient besoin d'un front-end builder, un no-code, mais plus pour des websites. Et quand on s'est lancé, du coup, entre 2018 et 2020, les gens se disaient, mais comment tu te compares à Webflow? Comment tu te compares à WordPress? Et justement, notre place, elle était pas claire dans le marché. Et à partir de 2021, on a eu beaucoup plus de retours de marché, parce qu'on s'est plus exposé, grâce notamment à Y Combinator, là, qui est ce programme d'accélération aux États-Unis. Et donc, on a multiplié par 10 le nombre de personnes qui s'enregistraient tous les mois sur notre outil. Et ça nous a permis d'avoir une vision plus claire sur où est-ce qu'il y avait des trous dans le marché. Et on s'est dit, ok, il y a un trou assez évident, c'est quand les gens ont déjà un back-end et veulent construire le front-end d'une web application, là, ils n'ont pas d'option. Parce qu'en fait, avec Webflow, tu es obligé de passer par le CMS. Avec Bubble, tu as un back-end intégré. Donc, tu vas avoir quelques petits problèmes. Si jamais tu veux avoir ton back à toi, tu as des problèmes de perf, de sécurité, etc. Donc, on s'est dit, ok, on va un peu faire ce pivot. Mais c'est pas un vrai pivot, c'est plus un changement de use case, quoi. Et donc, voilà, on s'est mis là-dessus. C'est comme ça qu'on a fait notre place. Là, les gens se sont dit, ok, pour moi, c'est hyper clair. Vous êtes finalement un front-end builder pour des applications web si jamais j'ai déjà mon back.
Très clair, merci. Justement, là, cette accélération depuis 2021, est-ce que il y a un lien de cause à effet de plein de facteurs le no-code qui prend une place de plus importante? Vous aussi, est-ce que vous avez fait des choix particuliers? Tu le disais, ce repositionnement, en tout cas cette évolution du positionnement, mais raconte-nous cette période-là jusqu'à aujourd'hui et comment on gère justement aussi cette traction, parce que moi, depuis que je connais WeWeb, j'ai l'impression que vous faites que doubler ou en tout cas accélérer fort.
Ouais. Écoute, je pense que la tendance principale macro, si on réfléchit au marché, c'est plus qu'il y a toujours un nombre croissant de demandes en digitalisation. En fait, ça a commencé il y a 20 ans et ça continue. Et parce que toutes les apps sont refaites ou il y a des besoins de faire de nouvelles applications, mais il y a un goulot d'étranglement qui est le nombre de développeurs disponibles. Et donc ce qui fait que il y a plein d'entrepreneurs qui essaient de mettre des solutions dans le marché qui permettent de construire plus rapidement, de pas forcément avoir besoin de développeurs, etc. D'où finalement la croissance du no-code de manière générale. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, les outils no-code sont de plus en plus matures. Et c'est ça qui est aussi reconnu, je pense, maintenant dans le marché. Et qui fait qu'ils sont capables de construire des apps qui peuvent scaler, qui peuvent être conformes aux prérequis techniques, même de très grands groupes. Et je pense que ça, c'est un peu la deuxième nouvelle tendance. C'est que le marché du no-code aussi, il arrive à une certaine forme de maturité en termes de qualité de produit. Et donc, avec toutes ces tendances qui se joignent, forcément, t'as un appel d'air. Qui fait que le marché du no-code, de manière générale, il grossit beaucoup. Voilà, et donc pour ta deuxième question par rapport à notre scale, nous, comment on fait pour gérer ça? Sincèrement, ça se fait assez naturellement, dans le sens où on grandit avec le marché et avec nos clients. Et donc on voit bien que nous aussi, on est pris dans cet appel d'air. Et on prend la vague, quoi. Et donc on n'a pas de problématique de financement en particulier. Quand on sent que l'équipe n'en peut plus, on recrute, quoi. et on accompagne notre croissance comme ça, quoi, de manière assez naturelle et organique.
Cool. Ne vendons pas non plus du rêve en disant que tout le monde peut utiliser WeWeb. Je veux bien faire passer ce message-là, que c'est pas non plus un drag and drop si facile que ça. Il faut avoir quand même des notions d'architecture, un petit peu de design, etc. Est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus aussi? Parce qu'il y a un peu cette croyance no-code qui est pas, peut-être un mot qui est au final mal choisi, mais qui rassemble tout le monde. Raconte-nous aussi ta vision, en fait, toi, du no-code, d'un point de vue WeWeb, évidemment.
Ouais. Donc, nous, on constate que le marché, il est segmenté. Et qu'effectivement, on met souvent sous le même chapeau beaucoup d'outils qui sont différents et qui s'adressent à différentes personnes. Donc, c'est bien de les mettre sous le même chapeau parce qu'effectivement, on a tous cette même approche de dire, on te permet de construire visuellement. Mais après, il y a différentes typologies et d'applications qui peuvent être construites par différents outils et de types d'utilisateurs. Et donc, on a les utilisateurs, je dirais, métiers, qui n'ont pas forcément de connaissances techniques ou très peu de connaissances techniques. Et pour ces gens-là, il y a des outils spécifiques. Pour en citer quelques-uns, on a Softr, Stacker, par exemple, Airtable aussi, c'est un super exemple. Et là, il y a vraiment, je dirais quasiment n'importe qui est à peu près à l'aise avec une souris, qui peut s'en saisir. Et ensuite, on monte un peu en termes de niveau de technicité, de professionnalisation, et on arrive vers des WeWeb et des Xano, où là, nous, on s'adresse plutôt à des gens qui ont un vrai background technique, qui comprennent comment fonctionne le web, comment fonctionne une API, c'est quoi le HTML, le CSS, le JavaScript, etc. Et donc, ces gens-là sont des professionnels du web, et on leur met à disposition, nous, des outils pour qu'ils puissent construire, soit pour eux-mêmes, dans leurs équipes, dans leur entreprise, soit en tant qu'agence ou freelance pour des clients. Mais là, effectivement, pour utiliser des outils comme Xano ou WeWeb, faut plutôt être très bon techniquement. Ouais.
C'est une question que j'ai posée à toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est le rapport avec l'intelligence artificielle. Au-delà du fait que on a les usages très grand public qui ont été démocratisés notamment par OpenAI, et on voit quand même que d'un point de vue business, il y a de nombreux use cases intéressants à adresser. Il y a aussi beaucoup d'effets d'annonce on surfe sur la hype du moment. C'est quoi toi ton regard et le regard que vous portez chez WeWeb sur les IA de manière générale?
Ah, nous on trouve que c'est phénoménal, hein. Enfin l'équipe WeWeb, pour la plupart d'entre nous, on est tous des développeurs, des gens plutôt techniques, donc voir ce qu'on est capable de faire déjà nous-mêmes en interne juste en jouant un peu avec les IA, ça nous stupéfait, quoi. Comme beaucoup d'entre nous. Donc je pense que c'est une opportunité monumentale pour la tech de manière générale d'accélérer encore plus qu'elle ne le fait déjà. C'est comme si ça allait pas assez vite déjà. Et sincèrement, donc effectivement, il y a des effets d'annonce et tout, et c'est normal, il y en a dans tous les marchés, et simplement comme là avec OpenAI qui l'a démocratisé, tout le monde a les yeux rivés dessus parce que ça fait un peu peur aussi. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus voyant, mais au final c'est un phénomène qui se voit partout, des phénomènes de hype, etc. Nous on a pris le parti d'éviter de faire des choses gimmicks dans WeWeb parce qu'on a déjà pas de temps à perdre, on a déjà une roadmap très 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 grande. Par contre, on a vu que intégrer de l'IA dans notre outil, un peu comme un copilote, comme l'a fait GitHub pour les devs, c'est hyper puissant pour nos utilisateurs. Donc on a fait une première version là en bêta qu'on a mis en ligne, je crois, en avril de cette année, et on a un retour génial. Et en fait, les gens, utilisent cette IA comme un assistant qui les aide à construire, donc notamment des fonctions complexes, des workflows, parfois même quelques éléments de front. Et en fait, ça leur met le pied à l'étrier, ou ça les débloque de situations compliquées. Un autre truc super qu'on a fait qui nous a vachement aidé à scaler, d'ailleurs, tiens, pour répondre à ta première question de tout à l'heure, parce que ça aide aussi l'IA à ça. On a donné à une IA toute notre documentation, et encore mieux que ça, on a pris toute notre historique de conversations, de support des deux dernières années. Donc je sais même pas combien il y a de conversations, des milliers et des milliers. On l'a donné à l'IA. Et maintenant, cette IA, tu peux simplement lui poser une question comme si c'était le support, et elle te donne des réponses qui nous ont fait tomber par terre tellement c'est parfait. Et ce qui est génial en plus, c'est qu'elle reprend mon ton, ma manière de parler quand moi je fais les supports, ou la manière de parler de Maël, qui lui assure le support maintenant depuis plus d'un an. Et donc on l'a nommée, cette IA, on l'a appelée Maël GPT, parce que on s'est dit que en l'honneur de Maël, comme elle avait pris son ton, elle devrait avoir son nom aussi.
Cool. Merci Raphaël, j'ai à te demander une anecdote particulière, mais je trouve que celle-ci est pas mal, elle est pas mal. Donc je vais te libérer là-dessus. C'est toutes les personnes qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'on les redirige ?
Directement sur notre site, je pense sur weweb.io, weweb.io.
Ça marche, merci Raphaël. Alors, au gré de mes allées et venues dans le grand espace de réception de l'événement au sein du village avec tous les exposants, il y a deux personnes qui m'ont intrigué, qui avaient des polos No Code Space Lab avec les logos de l'ESA, d'Ariane, avec des fusées dessus. Bref, une drôle d'impression à les voir déambuler là et surtout une grande curiosité. Donc, je me suis mis en quête de leur parler et puis j'ai ouvert le micro pour vous. Donc, voici mon échange avec Pierre Lacombe, le CEO de Voltap. Toujours au No Code Summit où j'ai retrouvé un bordelais et avec un qui m'a intrigué parce que avec un polo avec écrit No Code Space Lab. Salut Pierre, est-ce que tu peux te présenter?
Salut Guillaume. Écoutez avec plaisir. Moi je suis de près de Bordeaux, près de Libourne pour ceux qui connaissent, à La Rochelle en Dordogne, c'est pas très loin. Effectivement, je travaille pour la base spatiale européenne à Kourou en Guyane. Et je suis là au No Code Summit pour deux choses. La première, parler un petit peu des efforts qu'on fait pour la souveraineté et créer des outils souverains, parce qu'on essaie d'utiliser du no-code, mais c'est pas évident quand on a des contraintes de sécurité très fortes, qu'on peut pas utiliser de serveurs distants et encore moins de serveurs étrangers. Et deuxièmement, pour essayer de rencontrer aussi des gens qui font du no-code, des freelances, des agences, des étudiants. Parce que nous, on a pas mal de besoins. Il y a 550 entreprises qui fabriquent des fusées, hein, donc c'est beaucoup. En tout cas, qui participent à la conception. Il y a beaucoup d'entreprises aussi assez grandes dans l'économie française et européenne qui ont des besoins sur des outils un peu sécurisés. Et donc l'idée, c'est à la fois de montrer que on fait quelque chose pour le public et en même temps découvrir un petit peu l'environnement no code, un petit peu en dehors de la Guyane.
Merci. Tu m'as dit que littéralement c'est pour faire du no code dans l'espace. Est-ce que tu peux me donner des cas d'usage pourquoi aujourd'hui le no code en tout cas fait partie de cette suite de possibilités qui vous permettent peut-être d'être plus rapide, véloce, j'en sais rien. Est-ce que tu peux nous donner quelques cas d'usage précis?
Oui, avec plaisir. Sur un environnement où tu as beaucoup, beaucoup d'entreprises qui travaillent ensemble, tu as besoin d'outils collaboratifs. Synchroniser beaucoup de DSI, ça peut être compliqué. Et donc, offrir un terrain de jeu hyper sécurisé en no-code, une sorte de brique, une boîte de Lego, si tu veux, réutilisable, ça, c'est pratique. On a créé Voltap, un outil souverain qui permet de créer des applications en no-code hyper facilement. Donc, c'est des briques de code, c'est du React, qu'on peut empiler les unes avec les autres. Et concrètement, tu peux construire n'importe quelle interface, tu peux faire des automatisations, tu peux faire t'as des webhooks, tu peux connecter n'importe quelle base de données. Nous par exemple on utilise pas mal Supabase, un petit peu de Xano aussi, mais à chaque fois les versions on-premise, c'est-à-dire les versions sur nos propres serveurs. Les usages qu'on a, ils sont multiples. Par exemple, tiens, je te donne un exemple très parlant. On peut pas utiliser genre Google Maps. Tu vois. En plus, Google Maps ne te montrerait pas où sont des gens sur la base, la base est très très grande. Il y a des centaines et voire des milliers de personnes. C'est très très grand. Si vous regardez, vous pouvez taper base spatiale. Ça fait 700 km², donc c'est assez grand. Il y a plein de fusées qui sont assemblées, etc. Et donc, comment tu fais un système de cartographie sur lequel tu peux dessiner des bâtiments, tu peux dessiner des zones. Quand tu cliques sur ces zones, qu'est-ce qui se passe? C'est relié à une base de données. Tu peux voir les gens en temps réel, tu peux voir des choses, etc. Des layers, tu peux créer de la temporalité de ces layers. Tu peux voir, par exemple, la météo, entre guillemets, de zones qui vont évoluer dans le temps ou dans le passé. Bon, ça, ce genre de choses, ça n'existe pas sur les outils no-code classiques. Tu peux te piner sur une carte, tu vois, mais tu peux pas faire ça. Et donc, quand tu as des besoins qui sont très spécifiques comme ça, bah tu peux créer une brique de code et en faire la base d'un usage qui est vraiment dédié. Et en fait, je pense que c'est l'avantage du no-code ou du low-code, puisque c'est pas très différent. Voilà, nous on fait vraiment les deux, c'est-à-dire qu'on peut faire vraiment du low code dans le sens où ça peut être très pointu, comme si t'assembles, je sais pas, des petites briques type je sais pas saisie de texte et boutons, bah ça te fait une page de connexion. Et donc nous, comme c'est des briques combinables, bah tu peux avoir une plus grosse brique. C'est un peu comme des Lego qui se combinent et qui se transforment en Duplo. Voilà. Et donc en fait, le no code et le low code, ce qui est bien, c'est que ça se met au service des métiers. Et c'est pas le responsable métier, je sais pas, l'ingénieur à propulsion, qui lui doit se taper 5 ans de développement informatique pour espérer faire quelque chose dans 10 ans, quoi. Donc c'est ça le changement de paradigme, et c'est dans toutes les industries, et chacun va avoir l'outil qui est le plus adapté.
Excellent. Dans les coulisses, là, on parlait aussi de d'IA, ou plus précisément des LLM. Est-ce que c'est quoi votre regard du côté CNES? Comment vous abordez ça, appréhendez ça pour aujourd'hui et pour l'avenir?
Ah, bah, moi, je peux pas parler au nom du CNES, puisque je ne suis pas le CNES. On a un projet qui est dans l'incubateur de la base spatiale. Donc, okay. Du coup, à station K. K comme Kourou. Ah, parce qu'on est à station F. Comme, je ne sais pas d'ailleurs, parce que ça n'a jamais été officialisé. Mais donc, du coup, l'idée, c'est que on travaille, nous, par exemple, sur des IA. Donc, on travaille sur un outil qui s'appelle Voltask, qui va sortir à la fin de l'année, je crois, ou au début de l'année prochaine. Et l'idée, c'est qu'on fait un système d'automation dans lequel tu vas pouvoir faire passer des LLM dessus. Alors, tout est pareil, souverain, local, etc. Et donc, je pense que déjà, faire passer des IA, et on le voit, par exemple, avec Airtable, qui vient de lancer son outil d'IA, enfin, son outil de prompting intégré, bah tu peux faire de l'analyse de data assez folle, tu peux faire une analyse de tous tes flux entrants. Par exemple, je sais pas, tu reçois 100 emails, et bah automatiquement ça va te dire, ok, il y a 30 emails c'était de la pub, 5 emails c'est de votre équipe, ça fait 10 fois qu'ils vous relancent, etc., etc. Donc je pense que l'IA est très très facilement intégrable dans les outils no code, et je pense que ça va encore créer de plus en plus de productivité, et on va dire l'émergence de ces LLM vont permettre l'émergence de fonctionnalités IA que tout le monde va pouvoir créer. Ça, c'est chouette.
Excellent. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, on les dirige vers quoi?
Alors, bah, vous pouvez essayer l'outil parce qu'il est dispo. Vous pouvez aller sur voltap.tech, V-O-L-T-A-P-P, .tech. N'hésitez pas à le tester. N'hésitez pas aussi à rejoindre un peu le Discord, qu'on a même un Discord formidable. Voilà, dites-nous un peu ce que vous en pensez, et si vous avez des suggestions, comme c'est un outil assez jeune. Peut-être que d'autres sont plus ancrés et vous pouvez pas proposer des fonctionnalités. Là, vous pouvez en proposer et on écoute. Donc, n'hésitez pas. Et si vous faites du no-code et que vous voulez tester une techno spatiale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de techno spatiale, genre les lasers, c'est plus compliqué, et bien vous pouvez le faire, et amusez-vous, et faites et lancez des projets.
Merci Pierre, et puis à bientôt peut-être autour de Bordeaux.
Voilà, merci Guillaume, ciao.
Alors pour finir, j'avais coché sur ma liste la table ronde le no-code au service de l'impact positif. C'était vraiment très intéressant de voir cette balance qui existe entre les bénéfices qu'offrent les outils no-code aux associations et en même temps quelques limitations d'un point de vue éthique parfois qui peuvent exister. Donc je vous propose de clôturer avec Valérie, une des intervenantes de cette table ronde. Je suis avec Valérie. Bonjour Valérie. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire à quel titre tu intervenais là sur cette table ronde?
Oui, bonjour. Je suis Valérie. Je suis freelance tout d'abord. Donc, je suis formatrice No Code et j'intervenais ici pour l'association No Code for Good, qui est une association qui vise à mettre en relation des no-codeurs et des projets à impact solidaire et positif et qui montre et promeut le no-code, qui montre ce que peut le no-code faire pour les impacts dans des projets notamment et accélérer les projets.
Justement, selon toi, c'était le thème de la conférence. Comment ces technologies, la no-code qui émerge et ces dernières années peuvent vraiment favoriser et être un élément déclencheur pour les projets à impact?
Alors, je crois que le maître mot là-dessus, c'est vraiment l'accélération et la rapidité d'exécution. Et surtout, le côté accessible, parce que, en général, les associations se font aider par des no-codeurs ou des no-codeuses, mais après, ils prennent en main leurs propres solutions et ils sont capables également de les maintenir et de les pérenniser dans le temps. Donc, c'est vraiment rapidité d'exécution, tester une idée, valider si elle marche ou pas.
Ouais, on est vraiment très proche au final de la logique très entrepreneuriale et ça peut faire vraiment aussi du bien à ces associations parce que c'est beaucoup des associations. Est-ce que tu aurais un exemple comme ça je sais que c'est toujours délicat parce qu'on a envie d'en choisir plein, mais est-ce que tu en aurais un là que tu pourrais en tout cas mettre en lumière là à mon micro?
Oui, on a un sujet qui s'appelle Startup for Kids, qui est une association qui promeut justement l'éveil au numérique pour les enfants, notamment, et qui a pu passer par No Code for Good pour se faire aider. Donc, il a bénéficié de l'aide d'un no-codeur, et ils ont même pérennisé, puisqu'après une première phase du projet, ils ont après continué leur aventure ensemble, et ils continuent d'ailleurs, si je ne me trompe pas, toujours à développer leur sujet. Donc ensuite, sur les différents projets que l'on peut rencontrer, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Il peut y avoir aussi, par exemple, l'association Kipawa, à laquelle je pense, qui vise, elle, à aider les personnes qui viennent d'arriver dans notre pays, qui sont souvent complètement démunies par rapport aux aspects administratifs, qui ne parlent pas la langue, et ils essayent de mettre en place des dispositifs pour aider ces personnes. Voilà, ça peut aller vraiment dans plein de directions, finalement.
Merci. On l'a vu, ça génère certes beaucoup d'enthousiasme, mais à la fin aussi beaucoup de questions sur les conflits de valeurs au final que ça peut engendrer. Certes, on utilise des outils, alors on essaie de promouvoir des outils open source, mais il y en a pas beaucoup. Parle-nous-en, quel est ton regard sur ces conflits-là qu'on peut avoir de valeur quand on utilise des outils no-code, mais qui servent à des projets impact?
Je pense que là-dessus, c'est toujours une question aussi de maturité des solutions technologiques. Aujourd'hui, le no-code, malgré qu'il ait gagné beaucoup en maturité, reste encore relativement jeune par rapport aux autres technos. Maintenant, je pense que ce conflit, malheureusement, existera toujours. C'est-à-dire que, à un moment donné, il faut qu'on fasse le choix sur l'accessibilité de l'outil versus nos valeurs et nous, et peut-être des outils open source qui, effectivement, vont être beaucoup plus éco-responsables, vont rentrer plus avec des valeurs à impact. Par contre, qui vont être plus complexes à prendre en main. Et donc, on revient un peu à ces notions de quelle va être la valeur ajoutée, la rapidité d'exécution. C'est tout ça qu'on doit mettre en balance. Donc, il y a des choix qui sont un peu cornéliens parfois à faire. Oui, je suis tout à fait d'accord.
Dernière question. Il y a une thématique un peu transconférence, ou en tout cas, c'est ce qu'a voulu donner comme impulsion le No Code Summit, c'est sur l'intelligence artificielle. Bizarrement, on en a un peu moins parlé lors de votre table ronde. Quel est ton avis là-dessus? Comment l'IA, par rapport au projet impact, au projet qui veulent faire du bien, c'est quoi le positionnement quand on a ton background, qu'on s'implique dans No Code for Good, etc.?
Sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas si je serais très objective, c'est un vaste sujet. Je pense que indéniablement, ça peut aider. En revanche, moi, je mets des gros warnings. Pourquoi? Parce que souvent les gens voient cela comme un peu quelque chose de magique. Voilà, c'est quelque chose d'un peu magique et tout. Donc il y a toute une éducation, une sensibilisation à faire là-dessus. Et du coup, je pense qu'il sort un peu du spectre de notre mission, en tous les cas, nous, à No Code for Good. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'introduirait pas de l'intelligence artificielle, qu'on ferait pas appel à OpenAI, par exemple. Mais je pense qu'il faudrait le faire vraiment avec discernement, bien expliquer pourquoi on mettrait en place ce type de technologie et expliquer à la grosse, bien sûr, son mode de fonctionnement. Maintenant, je pense que là, on pourrait y passer la nuit. J'ai beaucoup à dire. Il y a quand même l'open sourcing sur l'IAMA, notamment l'IAMA 2, qui est plutôt bien. Alors, open sourcing ou semi-propriétaire, on peut se poser la question. Néanmoins, je pense qu'en termes de performance, il y a beaucoup de valeur aussi à prendre là-dessus. Il me plaît de voir que ce sont des questions avec qui, sur lesquelles, pardon, on peut discuter aussi avec les grands acteurs du no-code. J'ai discuté ce matin avec David Siegel, le CEO de Glide, et qui était très ouvert là-dessus, notamment sur les aspects d'intelligence artificielle, d'avoir plusieurs LLM à tester. Bref, vaste sujet.
Oui, et je te rejoins, et vous l'avez très bien dit, c'est à nous aussi, en tant qu'usagers de ces outils-là, de prendre notre bâton de pèlerin et leur dire « Hey, vous faites quoi sur les sujets d'impact ? Hey, vous faites quoi ?» Dites-nous en plus. Donc, et puis, au fur et à mesure, peut-être que ça fera bouger les lignes. Dernière question, un appel à l'action, si on veut en savoir plus, une actualité à nous partager.
Alors, si on veut déjà savoir No Code for Good, ce que ça fait, on va sur nocodeforgood.fr. C'est la plateforme qui met en relation les projets à impact et les no-codeurs, les no-codeuses. Et en ce moment, actualité tout chaud, on est en plein crowdfunding. Donc, allez voir surtout sur Ulule. Vous allez chercher No Code for Good. N'hésitez pas, tout don, même 1 euro est le bienvenu.
Merci Valérie. Bon No Code Summit.
Je te remercie beaucoup pour ton accueil. Merci.
Ça y est, je vais clôturer bientôt cet épisode. J'ai travaillé pas mal pour que le son soit hyper clean. J'ai trouvé des coins vraiment au calme durant l'événement. J'ai réussi à cette prouesse-là. Donc, normalement, les interviews sont OK. Je remercie toute l'équipe d'organisation du No Code Summit au sens large, hein, des bénévoles jusqu'aux personnes qui ont mis beaucoup de cœur. Je pense aussi aux personnes qui étaient en charge de tout ce qui est presse, médias, pour leur accueil. Pour organiser aussi des événements, je me rends compte du travail titanesque qui a été fait pour cet événement et proposer autant de contenu, autant d'échanges. Bravo, voilà, si jamais certains écoutent. Impossible pour moi de tout vous résumer dans un seul épisode de podcast, hein. C'est que mon prisme, je vous dirais tout simplement de regarder pour venir l'année prochaine. Je ne sais pas encore exactement où ça sera, mais ce sera probablement à la même période. En attendant, je vous invite à rejoindre le Slack de la communauté No Code France. Je vous mets le lien en description, c'est un espace génial où échanger. J'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs membres de la communauté là, durant mon passage sur l'événement. C'est une super communauté, hyper bienveillante, hyper facile d'accès. Donc on se retrouve là-bas. Merci à tous pour vos écoutes. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés durant cet épisode spécial. Je compte sur vous pour noter 5 étoiles ce podcast si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou votre plateforme préférée. Vous connaissez la chanson. Portez-vous bien et à bientôt.